Le banquet.
Vous ne connaissez pas Rouen, Archambault, ni donc le château du Beauvreuil. Non, c'est un gros château, à 6 ou 7 tours disposées en rond, avec une grande cour centrale. Il fut bâti voici 150 ans, par le roi Philippe Auguste, pour surveiller la ville et son port, et commander le cours extrême de la rivière de Seine. C'est une place importante que Rouen, une des ouvertures du royaume du côté de l'Angleterre, donc une fermeture aussi. La mer remonte jusqu'à son pont de pierre qui relie les deux parties du duché de Normandie. Le donjon n'est pas au milieu du château, c'est une des tours, un peu plus haute et épaisse que les autres. Nous avons des châteaux pareils en Périgord, mais ils ont ordinairement plus de fantaisie dans l'aspect. La fleur de la chevalerie de Normandie y était assemblée, vêtue avec autant de richesse qu'il était possible. 60 sires étaient venus, chacun avec au moins un écuyer. Les sonneurs venaient de Cornello quand un écuyer de messire Godefroy d'Harcourt, tout suant d'un long galop, vint avertir le comte Jean que son oncle le mandait en hâte et le priait de quitter Rouen sur le champ. Le message était fort impérieux, comme si messire Godefroy avait eu vent de quelque chose. Jean d'Harcourt se mit en devoir d'obtempérer, se coulant hors de la compagnie, et il était déjà au bas de l'escalier du donjon qui l'encombrait presque tout de sa personne, tant il était gras, une vraie futaille. Quand il tomba sur Robert de Loris, qui lui barra le passage de l'air le plus affable. « Messire comte, messire, vous vous en partez ? Mais monseigneur le dauphin n'attend plus que vous pour dîner. Votre place est à sa gauche. » N'osant faire affront au dauphin, le gros d'Harcourt se résigna à différer son départ. Il partirait après le repas. Et il remonta l'escalier, sans trop de regret, car la table du dauphin avait grande réputation. On savait qu'il s'y servait merveille. Et Jean d'Harcourt n'avait pas acquis tout le lard dont il était bardé à sucer seulement des brins d'herbe. Et de fait, quel festin! Ce n'était pas en vain que Nicolas Braque avait aidé le dauphin à l'apprêter. Ceux qui y furent et qui en réchappèrent n'en ont rien oublié. 6 tables, réparties dans la grande salle ronde, au mur des tapisseries de verdure, si vives de couleurs qu'on aurait cru dîner au milieu de la forêt, auprès des fenêtres des buissons de cierge pour renforcer le jour qui venait par les ébrasements, comme le soleil à travers les arbres. Derrière chaque convive, un écuyer tranchant, soit pour les grands seigneurs le leur propre, et pour les autres quelqu'un de la maison du dauphin. On usait de couteaux à manches d'ébène, dorés et émaillés aux armes de France, tout spécialement réservés pour le temps de carême. C'est la coutume de la cour de ne sortir les couteaux à manches d'ivoire qu'à partir des fêtes de Pâques, car on respectait le carême. Pâté de poisson, ragoût de poisson, carpe, brochet, anche, brême, saumons et barres, plats d'œufs, volailles, gibier de plumes, on avait vidé les viviers et les basses-cours, écumé les rivières. Les pages de cuisine formant une chaîne continue dans l'escalier montaient les plats d'argent et de vermeil où rôtisseurs, queues et sauciers avaient disposé, dressé, nappé les mets préparés sous les cheminées de la tour des cuisines. 6 échansons versaient les vins de Beaune, de Meursault, d'Arbois et de Touraine. Ah, vous aussi, cela vous met en appétit, Archambault. J'espère qu'on nous fera bonne chère tout à l'heure à Saint-Sauveur. Le dauphin, au milieu de la table d'honneur, avait Charles de Navarre à sa droite et Jean d'Harcourt à sa gauche. Il était vêtu d'un drap bleu marbré de Bruxelles et coiffé d'un chaperon de même étoffe, orné de broderies de perles disposées en forme de feuillage. Je ne vous ai jamais encore décrit, monseigneur le dauphin. Le corps étiré, les épaules larges et maigres, il a le visage allongé, un grand nez, un peu bossué en son milieu, un regard dont on ne sait s'il est attentif ou songeur, la lèvre supérieure mince, l'autre plus charnue, le menton effacé. On dit qu'il ressemble assez, pour autant qu'on ait moyen de savoir, à son ancêtre Saint-Louis, qui était comme lui très long et un peu voûté. Cette tournure-là, à côté d'hommes très sanguins et redressés, apparaît de temps à autre dans la famille de France. Les huissiers de cuisine venaient d'un pas empesé présenter les plats l'un après l'autre, et lui, le dauphin, désignait la table vers laquelle il devait être porté, faisant ainsi honneur à chacun de ses hôtes, au comte d'Étampes, au sire de la Ferté, au maire de Rouen, accompagnant d'un sourire, avec beaucoup de dignité courtoise, le geste qu'il faisait de la main. La main gauche, toujours, car je vous l'ai dit, je crois, sa main droite est enflée, rougeâtre et le fait souffrir. Il s'en sert le moins possible. À peine peut-il jouer à la paume une demi-heure et tout de suite sa main gonfle. Ah, c'est une grande faiblesse pour un prince. Ni chasse, ni guerre. Son père ne se cache pas pour l'en mépriser. Comme il devait envier le pauvre dauphin tous ses seigneurs qu'il traitait, les sires de Clair, de Graville, du Bec-Thomas, de Mennemar, de Braquemont, de Sainte-Beuve ou d'Ou de Thau, ses chevaliers, solides, sûrs d'eux, tapageurs, fiers de leurs exploits aux armes. Il devait même envier le gros d'Harcourt, que son quintal de graisse n'empêchait pas de maîtriser un cheval, ni d'être un redoutable tournoyeur, et surtout le sire de Biville, un fameux homme qu'on entoure beaucoup dès qu'il paraît en société, et à qui l'on fait raconter son exploit. C'est celui-là même, vous voyez, son nom vous est parvenu. Oui, d'un seul coup d'épée, un Turc fendu en deux sous les yeux du roi de Chypre. À chaque récit qu'il recommence, l'entaille augmente d'un pouce. Un jour, il aura aussi fendu le cheval.